Oui, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et vous écoutez Les Oreilles Loin du Front. Alors, nous sommes avec Anne Rambach, bonjour.
Bonjour.
Puisque nous allons parler des nouveaux intellos précaires. La précarité est quelque chose qui est relativement d'actualité puisqu'on parle des salariés dans les usines qui sont en grève et qui sont précaires. On parle aussi des enseignants-chercheurs qui sont précaires. On parle de toutes sortes de choses de ce genre, mais on parle rarement des intellos précaires puisqu'on a une certaine tendance à considérer que les diplômes sont une sorte d'antidote à la précarité, mais ne vous y fiez pas puisque notre cher ami Laurence Parisot nous l'a dit, aujourd'hui la précarité est partout.
Dans la vie, pratiquement tout est précaire.
Travail, famille, télévision.
Ceux qui s'adressent comme vous-même, qui s'adressent aux industriels, aux commerçants, à ceux qui dirigent l'économie, au lieu de leur dire ça va mal et c'est la faute du gouvernement, leur disent, vous avez pendant 50 ans vécu à l'abri de protections inadmissibles. Pendant 50 ans, vous étiez tranquille. Chacun produisait sa petite affaire, sans savoir à quel prix il revient, et la vendait tranquillement avec son petit bénéfice. Il y avait de bonnes frontières douanières, il n'y avait aucune concurrence, et le client français était traité comme un client qui était obligé de payer ce qu'on lui donnait au prix qu'on demandait. Nous vivrons, et l'économie française, et les industriels et les commerçants français doivent vivre désormais dans la préoccupation permanente. Il s'agit de se dire qu'ils sont toujours menacés par la concurrence, qu'il faut toujours qu'ils fassent mieux, qu'il faut toujours qu'ils produisent à meilleur compte, qu'ils vendent la meilleure marchandise à meilleur prix, et que c'est ça la loi de la concurrence et la seule raison d'être libéralisme. Car si ça n'est pas ça, je ne vois pas pourquoi on se livrerait à ce genre de spéculation et pourquoi on prendrait tous ces risques et tous ces dangers. Nous serons donc en risque permanent. Et le gouvernement en est parfaitement conscient. Son rôle est de diminuer ses risques parfois, mais son rôle n'est certainement pas d'inviter les gens à la paresse en leur créant de nouvelles protections.
Intermittent, retourne dans ton pays et reste-y. Jean-Pierre Gaillard, redonne-nous l'espoir. CAC 40, oui, oui.
Dans la vie, pratiquement tout est précaire. La santé, c'est précaire. L'amour, c'est précaire. Malheureusement, parfois, l'entreprise, c'est précaire. C'est fragile. Les choses peuvent être fragiles pour le salarié. Les choses sont également potentiellement fragiles pour l'entreprise.
Et bonne retraite pour le CRS. Et bonne retraite.
Oui, alors là, on ne va pas parler des CRS précaires, quoique on sait que maintenant les gardiens de prison sont aussi précaires et militent, donc alors pourquoi pas les CRS, voire des intellos CRS, mais ça, je n'en ai jamais rencontré encore. Bon, enfin, là, on va parler des nouveaux intellos précaires avec Anne Rambach, et j'aurais aimé savoir, pour commencer, comment vous aviez eu l'idée au départ, parce que si on parle de nouveaux intellos précaires, c'est qu'il y avait d'abord les intellos précaires.
L'idée, elle nous est venue d'abord parce qu'on était directement touchés par le sujet, puisque avec Marine, on était depuis plusieurs années à la fois éditrice bénévole, auteur de livres, ce qui est un statut hyper précaire. Et en fait, l'idée nous est venue, comme souvent au précaire derrière, dans l'urgence économique. Un jour où on était sur un découvert de manière effrayante à la banque, on n'avait aucune perspective de travail. On venait même de se faire planter par quelqu'un qui nous avait fait travailler sans contrat. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien raconter d'intéressant qui soit valorisable en très peu de temps auprès d'une maison d'édition. Et juste ce jour-là, on a eu plusieurs coups de téléphone de copains qui étaient tous des créatifs ou des gens qui étaient quand même pas mal diplômés pour certains, pas tous, mais certains. Et ils nous ont tous téléphoné et on était tous dans la même galère, quoi. C'était drôle parce que voilà, on se racontait chacun nos galères et je me disais, mais en fait, on trouve ça totalement normal que tous nos copains soient dans cette situation de précarité, de revenus qui font du yo-yo, d'incertitude. Enfin, on a une visibilité de travail. Quand on a 6 mois de travail, c'est extraordinaire et la plupart du temps, on en a un mois devant nous, quoi. Et on s'est dit, mais on ne nous parle jamais de ça. Ça paraît complètement anormal à chacun d'entre nous. Or, on est tellement nombreux à l'être que ça ne doit pas être si anormal que ça. Et voilà, on a fait en 2-3 heures un projet de livre qu'on a appelé tout de suite « Les intellos précaires ». C'est venu comme ça tout seul. Et on a été allé voir plusieurs éditeurs avec le projet. Tous nous ont dit que c'était un sujet complètement idiot, qui intéressait 10 personnes à Saint-Germain-des-Prés et encore. Et nous-mêmes, on n'avait même pas commencé l'enquête, donc on était plutôt sur une espèce d'hypothèse, on n'avait pas vérifié. On a eu de la chance parce que le dernier éditeur qu'on a sollicité, c'était Fayard, s'est enthousiasmé pour le projet et nous a financé vraiment bien pour 8 mois d'enquête. Et c'est en faisant l'enquête qu'on s'est rendu compte qu'en fait, non seulement il n'y avait pas 10 personnes à Saint-Germain-des-Prés, mais des centaines de milliers dans toute la France, et que la précarité était devenue une deuxième norme dans tous ces secteurs de la recherche, de l'édition, de la presse, des musées, des bibliothèques, beaucoup de paramunicipales, associatifs, etc., où on employait à la fois des gens qui avaient un gros degré de compétence sur des boulots qui d'ailleurs étaient souvent très motivants, mais dans des conditions de revenus et de contrats qui étaient hyper dégradés.
Quand vous parlez d'intellectuel précaire, vous voulez dire quoi exactement par cette espèce de statut qui a été créé ?
C'était compliqué de dire intello précaire, parce que d'une part, il fallait dire en quoi c'était des intellos et en quoi ils étaient précaires. Alors, comme on n'est pas une université nous-mêmes qui distribue des diplômes, on était parti plutôt sur l'idée de parler de secteur dit traditionnellement justement intellectuel ou culturel ou de l'information. Donc on a pris comme ça l'édition, la presse, la recherche et tout, et sans se demander où étaient vraiment les frontières, parce qu'évidemment il y a plein de boulots pas du tout intellectuels qu'on fait. Moi je me rappelle, j'ai passé des années à faire des index de bouquins, en gros faut reconnaître les noms propres hein, puis les mettre par ordre alphabétique. Il y a au contraire des gens qui font des boulots hyper intello dans des secteurs qui ne le sont pas du tout, et pas forcément en tant que professionnel. Après, ça dépend. Mais pour nous, il s'agissait surtout de raconter comment dans des secteurs qui sont des secteurs très prestigieux, pour certains, très reconnus, où en gros, quand on dit qu'on est journaliste, quand on dit qu'on est chercheur, quand on dit qu'on est éditeur, tout de suite, les gens pensent qu'on est au summum de la réussite. Et comment dans ces secteurs-là, en réalité, pour beaucoup, les conditions de travail étaient super dures.
Comment avait été accueilli au départ à l'époque du premier bouquin, comment les gens avaient réagi face à cette espèce d'hybride, d'intello précaire ? Parce que c'était quand même...
Il y a deux types de réactions différentes. Il y avait une réaction dominante qui était, on a été submergé de mails, d'appels, de courriers, de gens qui disaient « C'est la première fois qu'on parle de moi, c'est la première fois que je me sens pas tout seul, c'est la première fois que j'ai pas l'impression que je suis le seul raté à avoir fait normal sup et à finir au RMI ». Et effectivement, il y avait quand même un truc d'identification qui était très fort et très enthousiaste. Puis un espèce de soulagement en même temps, le sentiment de sortir de l'ombre et d'avoir quelques... Parce qu'on n'expliquait sans doute pas tout, mais on donnait quand même un certain nombre d'explications sur l'essor de ce phénomène-là, qui faisait que les gens ne se disaient pas simplement que c'était leur trajectoire à eux, qui était complètement illogique et qui était souvent le résultat d'un certain nombre de choix discutables, mais que c'était une grosse machine qui s'était mise en place et qui créait cette population de toute façon de manière très forte et très nécessaire. Donc ça, c'était une des réactions. Et il y a une autre réaction aussi qui est plus agressive, mais qui, à mon avis, de toute façon, s'adresse à la plupart des intellectuels, qui était bah, d'abord, pourquoi vous parlez que de la précarité des intellectuels et pas de celle des autres ? À quoi on répondait juste, on parle de celle-là parce que personne n'en parle, alors que sur la précarité dans d'autres secteurs, il y a quand même beaucoup de travail, heureusement, peut-être sans doute insuffisamment, mais il y en a quand même. Et l'autre réaction, de toute façon, c'est vous avez fait un choix. Et cette précarité, c'est la conséquence de vos choix. Vous auriez pu faire un BTS d'action commerciale, vous auriez pu passer le concours de la Poste. Vous avez fait le choix d'aller dans des secteurs dans lesquels on sait qu'il est difficile et que les places sont chères, et vous le payez, c'est logique. Voilà, ça c'est une autre type de réaction qu'on entend beaucoup, y compris des intellos précaires eux-mêmes, qui nous disent « Bah oui, c'est vrai, j'ai choisi de faire de la recherche, alors que je savais qu'à la sortie, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on était nombreux pour un poste. » Et donc, il y a une espèce d'intériorisation de la part des intellos précaires, cette culpabilité d'être un intellectuel dans un monde où, après tout, on aurait pu faire autre chose, et peut-être plus valorisable, ce qui d'ailleurs n'est pas toujours confirmé par les statistiques, mais ça, c'est autre chose.
Surtout que ce dont vous parlez, les personnes que vous décrivez dans ces deux livres, c'est essentiellement des gens qui ont fait des grandes études et qui ont toujours été des bons élèves, qui ont ce côté, ils ont fait tout comme la société depuis le départ leur a dit de faire. Et comment finalement ils en sont arrivés là d'une certaine façon ?
Bah, ils en sont arrivés là parce que sont en place des forces qui amènent à ça de manière complètement logique. D'une part, il y a une part de plus en plus importante de la population qui fait des études supérieures, puisque d'abord on a amené le maximum de gens au bac, et que le bac c'est quand même l'entrée dans les études supérieures dans une large mesure. La difficulté de trouver du travail dans pratiquement tous les secteurs en réalité fait que de toute façon beaucoup de jeunes font le choix de faire des études supérieures pour aussi éventuellement remettre à plus tard le moment d'entrée sur ce marché du travail qui fait assez peur. Ils n'ont pas tort, puisque les statistiques montrent tout de même qu'avec des degrés, plus on monte dans les diplômes, plus les revenus futurs sont importants. Donc contrairement à ce qu'on dit, on entend tout le temps ça. Oui, ça ne sert à rien de faire des études aujourd'hui. De toute façon, il vaut mieux faire un truc concret. Si vous regardez les statistiques de l'INSEE, ce n'est pas vrai du tout. En gros, on s'en tire toujours mieux quand même avec une licence que sans licence. Mais bon, voilà, il y a ce fait qu'il y a vraiment des masses de gens qui aujourd'hui vont à l'université, que les effectifs ont été multipliés par 4 en 20-30 ans, ce qui est quand même considérable. Donc on a tout simplement de plus en plus d'intellectuels parmi nous. Et puis dans le même temps, aujourd'hui, parmi les emplois créés, la part d'emplois précaires ne cesse d'augmenter. C'est-à-dire que pendant très longtemps, quand on crée un emploi, on crée un CDI ou alors un poste de fonctionnaire. Aujourd'hui, quand on crée un emploi, on fait un CDD ou alors on fait un poste externe ou alors etc. Donc logiquement, on a plus d'intellectuels, on a plus de précaires, on a plus d'intellos précaires. Voilà.
Et entre le livre que vous aviez sorti en 2000 et la situation aujourd'hui, puisqu'il y a un nouveau livre, est-ce que la situation s'est empirée pour les intellos précaires ou est-ce qu'elle s'est stabilisée ou les gens se sont finalement, on va dire, adaptés à la situation et d'une certaine façon, on fait avec et ne se plaignent plus du tout?
Alors, évaluer le degré de dégradation, ça dépend des critères qu'on choisit. Donc, il y a des choses qui vont un petit peu mieux, il y a des choses qui vont franchement moins bien. Ce qui est positif tout de même, c'est justement qu'il y a de plus en plus de visibilité des précaires dans ces secteurs-là. Ce qui est quand même le tout début de ce qu'il faut pour qu'il y ait un mouvement collectif. Nous, on se rappelle, quand on a fait la première enquête, une des professions dans lesquelles les gens étaient les plus discrets sur leur précarité, c'était le monde des chercheurs. On avait interviewé, je me rappelle, il y en avait un, il était intéressant, il était sociologue, hein, il travaillait dans un laboratoire hyper prestigieux. Il était donc précaire depuis des années en CDD, enfin l'équivalent du CDD pour la fonction publique. Et il y avait des moments où son laboratoire ne pouvait pas le payer. Donc il continuait à travailler sans être payé. Et dans ces périodes-là, il faisait aussi des chantiers. Donc il était peintre en bâtiment, il était sociologue une partie du temps, peintre en bâtiment une autre. Et on lui disait, mais comment tes collègues réagissent à cette situation quand même particulière? Et il disait, mais on n'en parle absolument jamais. Eux n'en parlent pas, parce qu'au fond, ça les met extrêmement mal à l'aise. Je fais le même travail qu'eux, dans les mêmes conditions, je publie autant d'articles qu'eux, sauf que je suis payée 3 fois moins, et j'ai aucun des droits qui sont associés à ce type de poste de fonctionnaire. Et donc, ils sont très mal à l'aise. Et puis moi, de mon côté, j'en parle pas, parce que je me dis que si à un moment, il y a un poste qui s'ouvre, c'est pas au pauvre mec qui parle de sa précarité qu'on va le donner, c'est au collègue solide qui est là depuis des années sur le pont et qui fait le boulot. Et pratiquement tous les précaires qu'on avait rencontrés dans la recherche à l'époque racontaient une situation de très grande violence morale, parce que d'abord, les conséquences de leur précarité étaient absolument considérables sur leur niveau de vie, certains étaient à la limite de pouvoir manger, tout en travaillant tout le temps. Certains avaient une reconnaissance sociale considérable parce qu'ils étaient vraiment, certains d'entre eux étaient vraiment connus, réputés et tout, mais il fallait qu'ils demandent la caution de leurs parents à 35 ans pour obtenir un logement. Et puis en même temps, d'abord, il y a des rapports de force qui sont très défavorables, même entre chercheurs, quand il y en a qui sont précaires et d'autres pas. Ça donne lieu des fois à des cas de pillage, d'idées, enfin des choses qui sont quand même assez sinistres. Et donc, il y avait cette violence-là. Et le pire, en plus, c'est qu'on pouvait en parler à personne. Puisqu'après tout, on était en situation d'échec. On n'avait qu'à réussir à décrocher un poste. Voilà. Et quand Sauvons la recherche est apparu en 2003, on a eu vraiment... Alors nous, honnêtement, on a été surprises. On ne l'avait pas vu venir, ce mouvement-là. Je pense qu'à certains égards, c'est la brutalité gouvernementale qui a créé le mouvement en coupant de manière très violente dans les budgets. Mais on a été très heureusement surprises de voir mandarin et précaire dans un même mouvement, et la précarité vraiment mise comme un sujet central du discours. Et souvent, la recherche, qui est un mouvement qui a du mal sans doute à pérenniser l'engagement de toutes ses troupes en permanence, parce que ça fait longtemps maintenant qu'ils sont sur le pont, n'a absolument pas abandonné le fait de mettre la précarité toujours au centre de son discours. Donc de ce côté-là, il y a du mieux. C'est vrai qu'il y a des syndicats qui commencent à être nettement plus percutants, et c'est pas difficile en même temps, vu les difficultés qu'ils avaient à prendre en charge ces questions-là il y a quelques années. Là, il y en a quand même qui ont fait du chemin. Dans le monde des journalistes, par exemple, c'est perceptible. L'apparition de générations précaires aussi, c'est quand même quelque chose qui est très très positif et qui donne un peu d'espoir qu'on parle mieux de la question de précarité. Donc de ce point de vue-là, ça est un peu mieux. Maintenant, du point de vue du revenu et des contrats, ça se dégrade toujours. Et je crois aussi qu'au niveau des effectifs, on est toujours dans une augmentation du nombre de précaires par rapport au nombre de travailleurs dans un secteur.
Oui, donc on aura l'occasion de décliner les différents secteurs dans la suite de l'émission. Mais entre les deux livres, il y a eu aussi l'apparition de ce gouvernement sarkozyste qui s'en prend non seulement qui continue en tout cas à précariser les statuts, mais qui s'en prend aussi de manière assez frontale à ce qu'on pourrait appeler une petite bourgeoisie intellectuelle, hein, dans les milieux du social, du culturel, de la recherche, etc. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une volonté de déstabiliser les stables et de s'en prendre directement à cette catégorie comme figure repoussoire du modèle de société?
Je pense que oui. Enfin, quand on a fait le premier livre, donc on parlait d'une situation qui était la nôtre, c'est toujours le cas d'ailleurs, mais on était beaucoup dans le portrait de groupe. Déjà, on était dans la description du phénomène, quoi. Dire voilà, ça se passe comme ça, c'est des gens qui vivent comme ça, il y a des côtés marrants, il y a des côtés franchement moins marrants et tout ça. Et puis quand on a fait le deuxième livre, on avait déjà plusieurs années de recul sur le sujet. Et puis on avait aussi un compas un peu plus large d'analyse, parce qu'on est allé voir un petit peu ce qui se passait dans des secteurs qu'on n'avait pas explorés pour le premier livre, comme celui des musées, celui des bibliothèques. Donc ça nous donnait une vision encore plus large. Puis il y a eu aussi le phénomène, la bagarre avec les intermittents, qui est un autre, je pense, un moment assez révélateur aussi. Et donc sur le deuxième livre, on avait un regard un peu différent. Alors, juste pour la petite histoire, en fait, le deuxième livre, c'était vraiment une commande. Nous, on ne voulait pas le faire. Ça faisait plusieurs années qu'on nous disait « Allez, vous refaites les intellos précaires ». On disait « C'est bon, on ne va pas faire le retour, puis les intellos précaires contre-attaquent, et puis c'est bon ». Et puis, on avait besoin de sous encore il y a quelques mois. Donc, comme on nous avait proposé de l'argent, on a dit « Allez, on va faire un deuxième ». Et puis, avec Marine, on se disait « Mais comment on va faire plus de 120 pages sans faire que de la périphrase ?» Puis, Nicolas Sarkozy est venu nous aider. On a été rattrapés par l'actualité à une vitesse absolument folle. Alors bon, heureusement, justement, dès qu'on a recommencé l'enquête, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de choses à dire, de nouvelles. Mais en même temps, on était rattrapés par l'actualité tout le temps. Il y avait l'université, il y avait toutes les réformes du CNRS, il y avait la réforme de l'audiovisuel, il y avait les états généraux de la presse écrite. Et on voyait vraiment un espèce d'énorme mouvement qui est très silencieux, mais qui est mis en branle de manière très, très large et qui est vraiment une attaque contre tout ce monde de la culture et de l'intellect. Je dirais, quelles que soient ses formes, parce qu'évidemment, on peut identifier les chercheurs, on peut identifier les journalistes, qui sont évidemment deux cibles privilégiées, je pense, du gouvernement en ce moment. Mais bon, ce serait la même chose, les syndicalistes aussi, hein, c'est des intellectuels, c'est des gens qui créent du discours, qui créent de l'action. Il y a vraiment une entreprise très, très, très claire pour marginaliser au maximum tous les gens qui pourraient porter un discours de contestation, je dirais même de contestation au sens très très large du terme. Ce qui est frappant, c'est que c'est pas seulement une manière d'essayer de brider la pensée de gauche, par exemple. C'est une manière de brider toute forme de pensée qui pourrait apporter des faits contradictoires au discours officiel. Si on prend un sujet qui n'est pas du tout l'apanage de la gauche, par exemple, qui est celui sur la sécurité. La sécurité, c'est le grand sujet de droite, et c'est même celui de Sarkozy. On voit bien comment il y a des gens qui ne sont pas spécifiquement à gauche, qui travaillent sur ces sujets-là de manière très méthodique, c'est des chercheurs, et comment les chiffres et les faits qu'ils font apparaître contredisent de manière très claire le discours officiel du ministère de l'Intérieur. Ces gens-là représentent, il me semble, un danger au même titre que des représentants de la CGT. Et donc cette entreprise de fragilisation et de marginalisation, c'est vraiment une entreprise de propagande, à long terme, de manière diffuse, de manière, je pense, extrêmement intelligente d'ailleurs, mais qui a pour but de tous nous marginaliser et nous faire apparaître comme étant une espèce de petit bruit de fond qui va continuer à exister parce que de toute façon, il est important qu'il y ait un bruit de fond pour qu'on ait l'impression qu'il se passe quelque chose, mais qui est vraiment une tentative d'écrasement de la pensée au profit d'une pensée.
Justement, quand on parle de diffusion d'une pensée, on peut penser au journalisme ou à l'audiovisuel, par exemple. Et quelle est la situation aujourd'hui pour les intellectuels précaires dans ce domaine d'activité ? Parce que les pigistes ne sont absolument pas représentés, c'est eux qui font l'information d'une certaine façon.
Alors, je pense que sur le cas des journalistes, enfin, les chercheurs et les journalistes sont deux professions sur lesquelles on s'est beaucoup penché pour le deuxième livre, parce que justement, sur cette question de la liberté de parole, de la contestation, etc., c'est extrêmement spectaculaire et les enjeux sont tout de suite compréhensibles. D'ailleurs, on voit bien comment c'est pas seulement le journaliste en tant qu'il pourrait être politisé qui intéresse, c'est le journaliste simplement en tant qu'il fait apparaître des faits. Qui est visé. Il y a quelque chose qui est très parlant. Si vous regardez la structure des journaux, en particulier ceux de la presse quotidienne, c'est une structure qui a été mise en place souvent après-guerre. Vous avez tout un tas de journaux, type Le Monde, Libération, qui sont caractérisés au niveau du structure par le fait d'avoir une très grosse rédaction. C'est des grosses rédactions, il y a beaucoup de journalistes, 200, 300 journalistes facilement, qui composent le journal. Ce sont des journalistes permanents qui se regroupent en rubriques, mais aussi en comité de rédaction. Ce sont donc des gens qui, d'une part, discutent en permanence avec leur chef de ce qu'on va mettre dans le journal, qui ont un certain poids, je dirais, au quotidien, tout simplement parce que de toute façon, ils sont payés tous les mois et qu'il faut bien qu'on les rentabilise en leur donnant de l'espace dans le journal. Et ensuite, pour un certain nombre d'entre eux, ce sont des gens qui sont organisés en société de rédaction, qui essayent de peser, même sur des choix capitalistiques du journal, sans compter les syndicats, qui sont sans doute pas du tout accessoires dans ce cadre-là. Vous avez cette presse traditionnelle qui est largement en crise, mais dont la structure est d'abord celle-là. Et puis, vous avez les nouvelles structures qui sont beaucoup issues du monde du magazine, qui sont des nouvelles structures où vous avez un noyau de permanents, des fois c'est juste une dizaine, et puis un vivier de 50, 100, 200 journalistes pigistes, qui sont des gens qui fournissent pratiquement tout le contenu du journal, dont on pourrait se dire qu'ils ont au moins ce pouvoir-là, puisque c'est eux qui écrivent, en quelque sorte c'est eux qui font le journal. Sauf que dans la mesure où ce sont des gens qui sont hors les murs, qui, pour un certain nombre d'entre eux, ne mettent d'ailleurs plus jamais les pieds à l'intérieur même du local du journal, qui font tout par mail ou par téléphone, qui ne participent à absolument aucune forme de réunion interne, que ce soit sur les contenus ou sur autre chose, qui sont complètement éloignés de toute forme d'instance de représentation, parce que la plupart d'entre eux ne votent même pas pour les représentants du personnel ou syndicaux, etc. Et qui, en gros, n'ont pour unique pouvoir de faire de la proposition de sujet auquel on dit oui ou non. On se rend compte que cette nouvelle structure fait de pourtant ceux qui sont la majorité une marge dans la structure. Et autant je pense qu'il est... on peut être un excellent journaliste en étant pigiste. D'ailleurs, je crois que cette année, c'est une pigiste qui a eu le prix Albert Londres.
C'est une pigiste du 21, la revue 21.
Ouais, et de la Croix aussi.
Ouais.
et on se rend compte que... Bah ouais. On se rend compte que on peut être un excellent professionnel en étant pigiste. Par contre, être pigiste, c'est largement renoncer à avoir du pouvoir sur les médias pour lesquels on travaille. Et ça fait remonter, dans ce qu'on voit en gros, c'est un mouvement qui fait remonter les pouvoirs dans le monde de la presse vers les instances dirigeantes et même vers le pouvoir du capital de manière très très forte, et qui fait que le moment qui a été le plus représentatif et le plus spectaculaire, ça a été les états généraux de la presse écrite. Donc une espèce de grand congrès avec des ateliers organisés par le gouvernement pour réfléchir à la manière dont on pourrait sauver la presse écrite française qui est en crise importante. Quand on regarde la composition de ces états généraux, c'est d'abord 90% d'hommes, disons-le. Ensuite, c'est principalement des dirigeants de journaux, des propriétaires de journaux. Enfin, c'est vraiment les cadres les plus supérieurs alliés aux directions avec au-dessus le capital. On fait des états généraux de la presse écrite où on pense l'avenir de la presse écrite sans journaliste et très exactement sans parler des contenus. Je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'on imagine qu'on pourrait réinventer la presse écrite sans parler de ce qui a écrit dans le journal. Je trouve ça magique. Je pense que ce n'est pas un oubli, évidemment, mais je pense que c'est un acte très, très significatif qui veut dire désormais la presse, elle se pense sans ceux qui l'écrivent. Et vous n'avez pas votre mot à dire sur ce que la presse doit être. Encore une fois, tous les journalistes qui auraient aimé participer aux états généraux de la presse écrite ne sont pas forcément des gens ultra contestataires. Et je crois qu'ils se sont rendus compte, pour un certain nombre d'entre eux, qu'ils pensaient être la voix de la France à certains égards, hein, qu'ils ne l'étaient plus du tout.
Ce qui est paradoxal aussi, c'est que la situation pour les pigistes et pour les journalistes est finalement quasi la même, que ce soit, on va dire, un journal de gauche ou de droite.
Ouais. En fait, c'est une des choses qui nous avait le plus choqué quand on avait fait la première enquête, hein, c'est qu'on avait constaté qu'il y avait une dissociation totale des pratiques sociales des structures, hein, et de leur positionnement politique. C'est-à-dire qu'on voyait des structures assez nettement à droite ou assez nettement conservatrices qui étaient assez correctes comme employeurs et qui respectaient au moins la loi, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. Et puis, on se rendait compte que des structures avec des positionnements très à gauche, extrêmement vertueux sur les principes, qui pouvaient d'ailleurs écrire des articles très virulents sur le cas des précaires en France, traitaient leurs pigistes d'une manière absolument indigne, d'abord sans respecter la loi d'aucune manière, payant les gens sur des formes totalement illégales, les payant en noir pour une partie, surexploitant des jeunes journalistes en particulier, sur le mode « écoute, je te paye pas, mais l'expérience chez nous, tu pourras la valoriser ailleurs plus tard ». On a même vu quand même un rédacteur en chef de journal très à gauche, branché à gauche et tout, qui nous a dit « mais moi, mes journalistes, je les paye en carte de visite, madame ». C'est-à-dire qu'il leur faisait faire pour ces journalistes des cartes de visite où il y avait le nom du journal qui était effectivement prestigieux, puis leur nom à eux de petits journalistes qui espéraient faire carrière, et on disait voilà, je te paye avec ça.
For me.
Oui, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et vous écoutez Les Oreilles Loin du Front. Alors aujourd'hui, on est avec Anne Rambach pour parler des nouveaux intellos précaires. Alors nous étions dans la presse tout à l'heure, nous parlions des pigistes et nous parlions un peu du système de l'édition assez rapidement. Et alors cette année, il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire qui finalement n'a pas changé grand-chose, c'est la réforme de l'audiovisuel public. Et j'imagine que l'audiovisuel, il y a énormément de précaires aussi.
Alors dans l'audiovisuel, il y a énormément de précaires, mais avec des disparités de statut et de pratiques qui sont assez fortes. Quand on avait fait la première enquête, c'était un des secteurs dans lequel on avait trouvé des gens qui étaient depuis le plus longtemps en CDD. On avait des gens qui étaient depuis 20 ans en CDD dans les interviews, parce qu'ils avaient des contrats liés à des émissions qui avaient duré longtemps, mais c'était des contrats hebdomadaires. Donc, il y avait des gens qui signaient un CDD d'une semaine depuis 20 ans pour des chaînes de
mais
télévision.
Comment ils ne réagissaient pas en se créant une espèce d'unité pour faire quelque chose, pour changer ça?
D'abord, à la télévision, les gens sont extrêmement accrochés à leur travail et au fait qu'ils ont envie d'y rester, parce que c'est souvent pas mal payé. Ensuite, parce qu'il y a une forte intériorisation des règles. Je veux dire, c'est un des côtés vraiment négatifs de la précarité et des précaires, qui est que parce qu'on doit survivre dans un certain environnement, on finit par en adopter aussi les règles. Moi, je pourrais me citer moi aussi, hein, je fonctionne aussi à certains égards comme ça. Et donc, ce que nous disait un certain nombre de précaires de la télé, c'était bah oui, tant qu'on a besoin de moi, on fait des CDD, puis le jour où on ne voudra plus de moi, on arrêtera les CDD. Et alors, je me rappelle qu'à une époque, d'ailleurs, Canal+ avait arrêté ensemble plein de gens au même moment, et après ça, ils ont un peu changé de discours, ceux qu'on avait interviewés, nous disant que c'était quand même un peu vache de se retrouver dehors sans aucune indemnité. Oui, c'est un peu vache quand même. Mais surtout, aucun d'entre eux n'avait jamais appelé un inspecteur du travail pour lui dire bah voilà, ça fait 10 ans que je suis en CDD, vous peut-être me régulariser en CDI. Donc à partir du moment où on participe à notre forme d'exploitation, c'est pas toujours facile de la dénoncer après. Et donc, de toute façon, c'est un secteur dans lequel les gens acceptent assez fortement les règles du jeu, qui sont celles de l'audience, qui sont celles de la production et de sa rentabilité. Il y a aussi le détournement assez fréquent du statut des intermittents pour rémunérer des gens qui ne sont pas du tout des intermittents, mais dont les employeurs font payer le travail par le système de chômage. Donc c'est quand même déjà un secteur dans lequel il y avait des fortes dérégulations et d'assez fortes, entorses à la loi, c'est rien de le dire. Enfin, vraiment, où le droit du travail, en gros, s'appliquait assez peu. Donc c'est vraiment un domaine dans lequel les règles sont ultra libérales. C'est le monde tel que le rêve le MEDEF, hein, la télé à certains égards. Nous, on est scénariste. Enfin, moi, je suis scénariste, Marine aussi. On est sur un statut d'auteur. On est dans un statut dans lequel on est éjectable pratiquement chaque jour où on travaille. Et d'ailleurs, où on est éjecté de manière très, très régulière. Voilà, ça fait partie du boulot d'apprendre à se faire virer avec le sourire et à prendre un nouveau boulot le lendemain. Donc voilà, c'est vraiment... Après la réforme de l'audiovisuel dans ce contexte-là, on peut difficilement, nous en tout cas, qui travaillons, l'affronter de manière strictement vertueuse. On a vu tellement de choses irrégulières dans ce monde-là qu'il y a un certain cynisme au bout d'un moment. Alors, par contre, il y a deux choses qui n'ont pas fait rire les professionnels dans cette réforme. D'une part, c'est le fait qu'on met les rédactions sous tutelle. Ça, quand même, je pense que les collectifs de journalistes l'ont pris extrêmement mal, même si on sait depuis bien longtemps que les chaînes de télévision sont sous forte influence politique. Le fait qu'on formalise ça par le fait que les présidents de chaînes soient nommés presque directement par le gouvernement, quand même, là, ça touchait un point sensible et il y a eu des réactions fortes là-dessus. Et puis, évidemment, il y a le problème du budget. Je crois que assez peu de gens dans le service public se battent pour la publicité en elle-même. Je crois qu'un certain nombre d'entre nous sont ravis à l'idée d'écrire des scénarios dont le film ne sera pas coupé au milieu par des pubs pour Danone. Le problème, c'est qu'en aucune manière, on a garanti que l'ensemble des budgets qui allaient partir vers le secteur privé par cette manipulation allaient être compensés par des budgets de l'État, surtout vu l'état du budget de l'État. Donc... ce qu'on voit de fait, c'est une baisse très brutale et très soudaine du volume de la création. Il faut savoir que les chaînes françaises, publiques ou privées, ont l'obligation d'investir une part de leurs bénéfices publicitaires dans ce qu'on appelle le documentaire de création, donc vraiment du documentaire. Je ne parle pas des magazines de M6 sur les nounous et je ne sais pas quoi, le dessin animé et la fiction. À partir du moment où les budgets s'effondrent, En gros, il y a une espèce, ce qui est d'ailleurs typique des précaires, il y a une espèce de licenciement de masse, mais dont personne ne parle, parce que ce n'est pas une décision officielle, parce que ce n'est pas des CDI qui s'arrêtent, et qui fait que d'un coup, tout un secteur commence à souffrir, les uns parce que leurs revenus se réduisent de moitié, les autres parce qu'ils ne trouvent plus du tout de travail. Et d'ailleurs, quand on a commencé à parler des difficultés dans l'automobile ces dernières semaines, moi, ce qui m'a fait mal au cœur, c'est de penser qu'on commençait à parler vraiment des licenciements parce qu'on mettait fin à des CDI, mais ça fait des mois que des intérimaires sont arrêtés dans leur activité. Ce n'est pas un licenciement, puisque c'est de toute façon des gens qui n'avaient pas des contrats permanents. N'empêche que, de fait, c'est des gens qui ont perdu leur travail. Et quand on licencie un précaire, ce n'est pas un licenciement, ça ne fait pas de vague, ça ne fait pas de bruit, l'eau est complètement plate, c'est comme si ce n'était rien passé. Et il y a des milliers de gens qui perdent leur boulot sans que ça fasse même une petite ride sur la surface. Et dans la fonction publique en particulier, où ces pratiques-là sont extrêmement courantes, il faut se rappeler qu'en 1995, ça date un petit peu, mais c'est intéressant, l'Éducation nationale avait licencié sur une seule rentrée des milliers d'enseignants. Il y a eu un mouvement très très fort, parce que les gens se retrouvaient au chômage de manière absolument sans appel du jour au lendemain. Certains travaillaient depuis 20 ans, n'avaient pratiquement, avaient un chômage dérisoire, et il y a eu des grèves de la faim, il y a eu des coordinations très très pugnaces. Depuis, l'État a appris à gérer de manière beaucoup plus intelligente et graduée ces non-renouvellements de contrats qui sont en fait des licenciements qui ne portent pas leur nom, et qui font que depuis le premier livre, donc les intellos précaires jusqu'à maintenant, il y a plusieurs dizaines de milliers d'enseignants qui ont perdu leur poste précaire. Et ces enseignants-là, personne n'en a jamais parlé. Il y a eu, heureusement, les syndicats, eux, en ont parlé. Ils ont quand même appris que 25% de ces personnes étaient aujourd'hui au RMI. Je ne sais pas ce qui est devenu des autres. Mais ça, ça ne fait pas de bruit.
Quand on parle de lutte, tout à l'heure, vous parliez de la situation dans l'audiovisuel. Mais par exemple, aux États-Unis, l'an dernier, il y a eu la grève des scénaristes. Et on s'est rendu compte que finalement, c'était une grève qui était assuré et qui prenait de la place, qui a quand même coincé toutes les productions d'Hollywood, mais que les acteurs aussi étaient solidaires, que les gens étaient dans la rue pour défendre les scénaristes et les auteurs de télévision. Et comment ça se fait que ça marche aux États-Unis et ailleurs
Ce qui est sûr, c'est que dans tous les secteurs qu'on vient de nommer, si demain les précaires arrêtaient de travailler, plus rien ne fonctionnerait. Enfin, en gros, les magazines ne sortent plus, il n'y a plus d'émissions de radio, il n'y a plus de livres dans les librairies, il n'y a plus rien. On est devenu une telle partie des troupes, il y a des tas de professions dans lesquelles on est 20-30% des gens qui produisent, et dans certains secteurs spécifiquement beaucoup plus que ça. 90% des guides de musées, qui s'appellent des médiateurs culturels, sont des précaires. Voilà, c'est des secteurs entiers où maintenant on représente une telle partie des troupes qu'on ne peut plus fonctionner sans nous. Simplement, comme on est en même temps une population très atomisée, très craintive aussi, très
libéraliste,
très libérale, complètement coupée culturellement des syndicats, pour l'instant, on n'est absolument pas capable d'abord de prendre conscience du poids qu'on représente, et deuxièmement, de faire valoir ce poids. Alors, pourquoi c'est possible aux États-Unis et pas en France? En tout cas, pourquoi ça n'a pas encore eu lieu en France? Alors, aux États-Unis, le taux de syndicalisation est à peu près le même qu'en France, c'est-à-dire autour de un peu moins de 10%. Mais il y a un système très particulier qui existe depuis, je crois, la fin du XVIIIe siècle. Qui veut que dans une profession spécifique, quand un syndicat réussit à réunir plus d'un certain taux, je crois que c'est autour du tiers, des personnes qui travaillent dans un secteur, tout le monde doit se syndiquer. Donc il y a plein de métiers dans lesquels personne n'est syndiqué parce qu'en gros, on n'atteint jamais ce taux-là qui est assez important, où les syndicats n'arrivent même pas à syndiquer 3% des gens. Et il y a des secteurs dans lesquels on a 100% de syndiqués.
Et ça apporte des avantages d'être syndiqué ?
Ah ben, ça en apporte beaucoup, oui. Alors, pour les scénaristes, donc les scénaristes font partie de ces métiers, la plupart des métiers du cinéma aux États-Unis sont dans cette situation. Il y a les routiers, il y a aussi les gens du cinéma. Si on veut travailler comme scénariste aux États-Unis, on doit être syndiqué. C'est pas exactement une obligation légale, c'est juste que si on ne l'est pas, il y a toute une partie de son revenu qu'on ne perçoit pas. Donc, tout le monde se syndique. Et ensuite, alors c'est un système très autoritaire. En gros, tout le monde est obligé de d'abord, ce n'est pas exactement structurellement un syndicat, mais enfin, de fait, c'est un syndicat. Tout le monde est obligé de participer. Si la grève est mise en place, pas question de travailler. Si vous faites partie des quelques personnes qui essayent de travailler en douce, votre nom peut être publié sur le site internet du syndicat américain et vous êtes totalement ostracisé dans votre profession. Donc c'est un système très autoritaire qui fait que tout le monde est hyper discipliné. Ça a des aspects évidemment négatifs, ça a un aspect extrêmement positif, c'est qu'on peut imposer des règles de régulation du travail et des modes de régulation du travail. C'est-à-dire que même si on est dans un système hyper concurrentiel, où chacun est en rivalité, où on se pique le boulot les uns aux autres en permanence, il y a des choses qui ne sont pas possibles. On ne peut pas bosser en dessous d'un certain tarif. Le tarif, il est entendu entre les employeurs et le syndicat, et c'est celui-là et pas un autre. Si vous cassez les tarifs, vous êtes viré, c'est tout. On ne travaille plus avec vous. Si votre boîte de production, elle propose des contrats qui ne sont pas conformes et qui ne proposent pas les rémunérations prévues, vous êtes blacklisté dans toute la profession, vous ne pouvez plus bosser. Donc c'est un système de régulation très autoritaire, mais qui fonctionne, qui fait qu'en gros, on a un revenu. Enfin, l'espèce d'ultra-libéralisme ne débouche pas vers une baisse constante du prix du travail, qui est un phénomène qu'on a absolument en permanence dans tous ces secteurs-là. Et donc, ça veut dire aussi, on se fait du bien individuellement parce qu'on défend son revenu, et collectivement parce qu'en maintenant le prix de son travail, on maintient le prix du travail des autres. Voilà, ça c'est une des grandes qualités. Alors après, il y a spécifiquement le fait de pouvoir faire des grèves. Là c'est plus difficile à... La grève, je pense, des scénaristes a énormément marqué les États-Unis. D'abord parce qu'elle a eu un coût économique absolument considérable.
Et qu'elle a duré très longtemps.
Elle a duré 100 jours. Elle s'est arrêtée juste avant les Oscars. Mais elle a quand même... Et on a vraiment cru que les Oscars allaient sauter. Il faut savoir qu'à partir du moment où une des professions du cinéma est en grève, la plupart des autres professionnels ne peuvent pas ne pas afficher de la solidarité. Donc il y avait d'autres événements importants qui ont précédé les Oscars, qui ont dû être annulés, comme les Golden Globes, parce que simplement les comédiens vedettes refusaient de passer les piquets de grève des scénaristes. Ce n'était pas concevable d'être vu en train de passer un piquet de grève d'une autre profession du secteur. Donc elle a marqué, elle a montré aussi qu'effectivement, les scénaristes, même s'ils sont un petit peu souvent traités comme la deuxième roue du carrosse, sont absolument indispensables dans la chaîne de production. Maintenant, les résultats ont été très médiocres. Pour 100 jours de grève, qui a quand même coûté très très cher individuellement à chacun des grévistes, les quelques acquis qui ont été arrachés au patronat pèsent relativement peu, c'est très faible. Donc c'est une grève qui a été très dure, très courageuse, mais qui a porté peu de fruits.
Le conflit portait sur les droits...
Comme pour les scénaristes français, il y a à la fois un système de rémunération fixe qui se fait au moment de l'écriture même, qui est à peu près proportionnel au temps qu'on investit sur l'écriture d'un scénario. Ça, c'est du fixe, et ça, c'est fixé contractuellement. Et puis ensuite, il y a une part de droits qui viennent au moment des diffusions à la télévision, au cinéma, les exploitations sur Internet et tout. Et donc, tout ça est contractuel entre patronat et syndicat. Et ils avaient pratiquement pas de droits, les scénaristes, sur les ventes de DVD. Or, les ventes de DVD sont devenues une des principales sources de revenus dans le secteur du cinéma à Hollywood et de la télévision. Et très peu aussi sur ce qui est en train de se mettre sur Internet. Et donc, leur grand argument, c'était nous, on a des droits sur la télévision, mais on sait bien aujourd'hui que la télévision n'est plus l'avenir tellement des fictions sur lesquelles on travaille. Et on n'a aucun revenu. Ça veut dire que si je vends 1 million de DVD à travers le monde, je crois qu'un scénariste devait gagner... 1 centime c'était effarant à quel point c'était. Donc ils sont battus pour essayer d'augmenter cette proportion, ce qu'ils n'ont pas obtenu pour les DVD, mais qu'ils ont obtenu pour Internet. Ils ont mis un pied sur les revenus d'Internet. C'est bien, mais c'est quand même pas beaucoup pour 100 jours de grève.
Quand on parle de lutte aussi dans votre livre, Les nouveaux intellos précaires, vous parlez par exemple de la situation dans l'édition, et en particulier de la charte qui a été mise en place par les auteurs de jeunesse. Comment se fait-il que les auteurs de jeunesse aient réussi à trouver une entente sur les tarifs et pas les auteurs adultes ?
C'est une très bonne question. C'est extrêmement intéressant. Je pense que la différence, elle vient du fait que dans le secteur de la jeunesse, on considère le fait d'écrire et de dessiner comme un travail, et que les gratifications symboliques ne suffisent pas à rétribuer ce travail. Alors que nous, auteurs de romans notamment, de livres, de littérature, etc., moi j'écris des thrillers, considérons un petit peu trop souvent que c'est un espèce de hobby dont l'objectif principal est la gloire, ou un bout de gloire au moins, déjà celui d'être publié, ce qui fait que nous sommes une des populations, il me semble, de créateurs les plus passives, les plus acharnés à s'exploiter elles-mêmes, qui défend jamais ses droits, qui accepte tout et n'importe quoi. Les gens signent souvent des contrats sans les lire. Ça, j'adore. Et donc, il y a effectivement une société des gens de lettres qui essaye de se battre sur un certain nombre de principes, mais qui finalement représente une minorité d'auteurs. Et on voit bien en plus à quel point c'est difficile pour tous les intellos précaires en général de parler d'argent. D'ailleurs, on est censé être là pour le savoir, on est censé être là pour la bonne cause, pas pour demander du fric. Ça devient une espèce aussi de manière de se punir soi-même d'avoir fait ce choix-là, de faire ce type de métier. Et donc les auteurs de jeunesse qui ont moins de rétribution symbolique, parce qu'en gros on considère que les auteurs de jeunesse ne sont pas des vrais auteurs, ce qui est totalement injuste parce que certains sont de grands auteurs, que ceux qui dessinent pour les enfants font un travail mineur, ce qui est faux aussi parce qu'aujourd'hui le graphisme des livres pour enfants c'est des fois absolument merveilleux, n'empêche que voilà, c'est un boulot qu'on fait pour l'argent, en tout cas partiellement pour l'argent. Et donc, ça a été beaucoup plus facile de faire comprendre qu'il fallait défendre un certain nombre de principes contractuels et de revenus. Et il y a des choses qui sont assez marrantes. Par exemple, quand vous avez un salon du livre quelque part, où vous avez je ne sais combien d'auteurs en randonnion en train de signer leur dépit de livre, ou de ne pas en signer, les pauvres. Généralement, ceux qui sont des auteurs jeunesse sont rémunérés pour être là. Et ceux qui sont des auteurs pas jeunesse sont là pour la gloire et ne sont pas payés. Ils ont de la chance quand on leur paye leur déplacement. Mais le système de la charte, pour le décrire, parce que c'est vraiment typiquement le genre de choses qu'on peut imaginer pour commencer à avoir de l'impact sur ces métiers-là, alors que la mobilisation est très difficile. Le principe des chartistes, donc des auteurs et illustrateurs de jeunesse, c'est qu'ils ont fait une charte qui décrit quelles sont les conditions minimales, décentes, pour travailler dans leur milieu. Pas moins de 10% de droits d'auteur sur le prêt du livre, pas de contrat qui comprend telle et telle clause, pas de travail au forfait, pas de déplacement pour des événements sans être rétribué pour le faire, pas d'intervention dans des bibliothèques ou des écoles gratuitement. Voilà, et avec des tarifs qui sont décrits. Chacun des chartistes est un professionnel qui signe publiquement la charte et s'engage à l'appliquer dans le cadre de son propre travail. C'est-à-dire que publiquement, vous dites désormais, je n'accepte plus jamais moins de 10% de droits d'auteur, moins de telle rémunération, etc. Ça oblige d'abord chacun à se responsabiliser au moment où il est dans les négociations avec ses interlocuteurs, ne serait-ce qu'en disant, moi je suis chartiste, je ne peux pas accepter moins de 10%, sinon je me ridiculise auprès de tout le monde. Et par ailleurs, ça fait une espèce de premier collectif qui travaille à réguler. En gros, dans ce secteur-là maintenant, qui n'est en plus pas un secteur immense, donc beaucoup de gens se connaissent, il y a les chartistes et les non-chartistes. Et finalement, quand vous y réfléchissez, vous avez hyper intérêt à être chartiste. En gros, on a quand même plutôt intérêt à être bien payé que mal, à avoir des contrats positifs que des contrats pourris, à ne pas travailler au forfait, etc. Donc à la fois l'intérêt individuel et la régulation collective se retrouvent dans ce genre de démarche. Et j'en parlais justement pour les pigistes, parce que dans le monde de la pige, donc des journalistes de presse, on voit à la fois des gens qui travaillent pour des tarifs assez honnêtes, et qui font rétribuer vraiment leur travail, et d'autres qui quasiment payent pour bosser. Ce type de charte pourrait être un type d'action intéressant.
Quand on parle des luttes aussi, actuellement, il y a toute la lutte des enseignants-chercheurs. Et alors là, on va être peut-être un peu dans le négatif par rapport aux solutions, aux solutions apportées, puisque là, on est arrivé quand même à un compromis, en tout cas au niveau des auteurs jeunesse. Mais que se passe-t-il dans la recherche ?
D'abord, la recherche a subi un changement de financement qui détermine beaucoup les rapports de force dans le milieu. C'est-à-dire que pendant assez longtemps, on a financé dans la recherche des structures et des postes. C'est-à-dire qu'on subventionnait le CNRS, l'INSERM, etc., les laboratoires d'université. Et puis, on créait des postes et ces postes étaient occupés par tel ou tel chercheur pendant le temps de sa carrière. C'est un système qui, effectivement, n'était pas complètement sans contrôle. Hein. Il y avait des contrôles de la production et des obligations à un certain nombre. Et contrairement à ce qu'on pense, les chercheurs ne sont pas des gens qui dorment sur leur paillasse. Parce que quand on voit la passion qu'il y a chez la plupart d'entre eux dans leur métier, on se dit qu'il y a peut-être quelques-uns qui tirent aux flancs, mais enfin, que quand même, c'est une population qui bosse beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que c'est une structure qui était largement pilotée par les chercheurs eux-mêmes, puisque non plus, la plupart de ces structures étaient... avait en tout cas une part de pouvoir collégial assez importante. Et individuellement, les gens ont une autonomie assez grande. Entre-temps, le gouvernement, qui visiblement trouve que les chercheurs ne vont pas forcément dans le sens qui leur convient, ont créé une nouvelle structure, l'ANR, donc l'Agence nationale de la recherche, qui capte aujourd'hui une partie vraiment importante des budgets et qui ne finance pas des structures ou des postes, mais finance des projets qui correspondent à des CDD. Donc ça veut dire, je prends un projet, je le finance pendant 3 ans parce que je le trouve pertinent, intéressant, bien expliqué et budgété de manière correcte. Et ceux qui vont travailler sur ce projet, en tout cas pour une bonne part, sont des gens qu'on va prendre en CDD de 6 mois, 1 an, 2 ans, qui ne sont pas des gens qui vont faire toute leur, qui prennent ce travail-là pour faire leur, toute leur carrière. Ce sont des gens qui vont faire ce travail-là et puis on verra bien ce qui leur arrivera à la fin. On comprend bien comment, en plus, cette structure qui n'est plus piloté globalement par des chercheurs, mais par les ministères, dépossède une grande partie des chercheurs, finalement, du pilotage de leur travail. Et comment, par ailleurs, ils créent une nouvelle classe de chercheurs qui ont du travail. Effectivement, pour certains, ils vont travailler longtemps. Certains pourront être encore dans 15 ans en activité s'ils ont la chance d'être sur des budgets, sur des projets qui intéressent cette structure. Néanmoins, ce sont des gens qui auront une vie, d'abord, dans leur propre vie personnelle, auront un avenir extrêmement incertain. Une perspective de travail d'un an, 2 ans, c'est pas si magique que ça quand on veut commencer à acheter une maison ou en tout cas, ou même simplement convaincre un propriétaire de vous louer son appartement. Et puis, ça permet absolument plus d'envisager des recherches qu'on fait à long terme, puisqu'on est vraiment dans le résultat immédiat. D'ailleurs, du point de vue de la recherche, en tout cas, nous, sur les interviews qu'on a menées, c'était frappant comment ça pouvait avoir une dimension complètement contre-performante. Parce que l'obligation, finalement, de confirmer ces hypothèses au plus vite fait qu'on peut les confirmer de manière plus ou moins artificielle. On a vu, enfin, c'est quasiment du gag hein, sur certaines parties du livre. Et donc, on a une population de chercheurs qui sont au garde-à-vous parce que si ça se trouve, dans 2 mois, il n'y a plus de boulot s'ils n'ont pas accepté toutes les règles du jeu.
Justement, sur ce point-là, alors ça dépasse peut-être la recherche, mais il y a un peu cette idée répandue à gauche comme à droite que les précaires, ça travaille plus vite et mieux. Évidemment, on la valorise à droite et on la critique à gauche sur l'aspect corvéable à merci. Mais est-ce qu'on pourrait quand même pas dire que du point de vue des institutions, travailler avec des précaires, ça rend aussi le travail moins bon, à la fois dans la presse, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, ils ne viennent pas aux réunions de presse, il n'y a pas de collectif de travail, dans la recherche, sans que ça se voit assez bien, c'est-à-dire que le fait que les gens ne soient pas libres, soient dépendants, etc., ça ne favorise pas forcément peut-être un travail de qualité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu là, politique à mettre ça en avant sur une dégradation du résultat et pas seulement de la vie des gens, quoi.
Il y a peut-être déjà un malentendu, voire un désaccord sur c'est quoi du bon travail. Parce qu'un précaire, ça peut très très bien travailler. En tout cas, c'est tenu à être productif, puisqu'en gros, on ne paye pas un précaire pour ne pas travailler. Donc, il faut être super productif tout le temps. On peut le faire bien quand même. On peut aussi le faire très mal, parce que justement, quand on doit faire du feuillet pour être payé, ben, éventuellement, on peut remplir le feuillet de choses plus ou moins intéressantes pour faire du feuillet en plus. Je pense que c'est le cas, effectivement, sur la recherche. C'était vraiment frappant, ce chercheur qui nous dit « mais dans la recherche, justement, on ne sait pas où on va. On a une idée, on va vers quelque chose, mais la découverte intéressante éventuellement de la recherche qu'on fait, c'est que finalement, notre hypothèse était fausse et qu'il faut chercher ailleurs. Sauf que quand vous obtenez un budget en disant « voilà, j'ai cette hypothèse hyper motivante dont je pense que je peux vous la démontrer, disons, en 2 ans », et qu'au bout de 2 ans, on revient en disant « eh bien non, pas du tout, c'est faux, en tout cas largement faux », vous prenez le risque de ne pas être renouvelé dans la commande de travail. Et donc, les gens nous ont dit, on fait du bidonnage. Hein. Enfin, je veux dire, on a des chercheurs qui nous disent, on bidonne les résultats. C'est pas si compliqué que ça. En plus, on n'a pas toujours des gens qui sont capables de savoir que c'est bidonné. De toute façon, alors soit on part sur des hypothèses qui sont tellement sûres au départ qu'on se demande si ça va vraiment la peine de faire tout un projet dessus, soit effectivement, on doit rendre un résultat qui paraît au moins convaincant, même s'il ne l'est pas. Donc il y a une part, effectivement, et je pense qu'il y a un certain nombre de pigistes qui vous diront je ne me gêne pas pour gonfler. Il y a un certain nombre de pratiques qui consistent, par exemple, à interviewer des gens qui n'existent pas, parce que ça prend beaucoup moins de temps que d'aller les voir et d'interviewer des gens qui existent, qui peuvent être une manière de gagner des sous et de gagner du temps quand on est vraiment à la minute près pour sauver son loyer. Maintenant, je pense que la question, c'est qu'est-ce qu'on attend de vous, vraiment ? Est-ce que, ben justement, on fait des athées généraux de la presse sans journaliste, on ne veut pas parler des contenus ? Est-ce que le contenu, c'est vraiment un enjeu ? Qu'est-ce qu'on attend d'un bon journaliste ? C'est quoi un bon journaliste ? Peut-être que là où il y a malentendu, c'est que pour certains, un bon journaliste, c'est celui qui remplit au plus vite le nombre de pages qu'on lui a données dans le journal pour le lendemain. Et que pour un autre, un bon journaliste, ça va être quelqu'un qui a vraiment recoupé plusieurs fois ses sources avant de sortir une information. Et que là, on est dans un conflit, je dirais, un conflit politique de savoir quelle valeur on donne aux livres qu'on publie, aux articles qu'on publie, aux fictions qu'on met en ligne à la télévision, à l'enseignement qu'on donne dans nos universités. Est-ce qu'un bon enseignant universitaire, c'est celui qui est prêt à prendre le cours de 8h à 10h, que personne d'autre a envie de se taper, parce que justement les titulaires, ils préfèrent commencer à 10h, et puis voilà, c'est quand même plus confortable quand on prend le RER. Ou est-ce qu'un bon enseignant, c'est celui qui a quand même du temps pour préparer son cours? Voilà, il y a des gens qui gèrent et puis il y a des gens qui ont envie que tout soit intéressant, performant et tout. Voilà, je pense qu'il y a des précaires qui bossent super bien, il y a des pas précaires qui bossent super mal. Le problème, c'est de savoir au fond qu'est-ce qu'on veut produire. C'est quoi un bon journal ? C'est quoi un bon livre ? Voilà.
Et pour terminer, peut-être, comment vous penseriez qu'on pourrait, d'une certaine façon, unir toutes ces professions un peu disparates pour lutter ensemble, pour avoir quelques objectifs communs ?
Alors, en fait, je pense qu'il ne faut pas qu'on lutte ensemble. Je pense qu'on doit lutter dans chacun dans son secteur de manière très locale, parce que je pense d'abord que l'avenir de l'action politique, c'est beaucoup dans le local. C'est dans une action, je dirais, qui n'a pas des prétentions révolutionnaires extrêmes, mais qui compte être percutante sur un terrain précis. Parce que souvent, sur un terrain précis, on peut prendre plus de pouvoir plus vite. Or, la question de la rapidité, la question de la dimension très concrète des résultats, c'est vraiment des choses qui peuvent parler aux précaires. En revanche, là où il y a vraiment un énorme travail à faire, c'est pour créer un travail en commun entre précaires et non précaires. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a quand même peu de ponts qui sont faits. D'abord, encore une fois, la culture des syndicats ne les a pas préparés vraiment, encore une fois, à prendre en charge pour l'instant ces questions. Les précaires eux-mêmes attendent des syndicats qui fassent tout le boulot sans jamais se mouiller eux-mêmes individuellement. Or, un syndicat, ça se nourrit largement de l'action individuelle des gens. Donc là, il y a vraiment des choses à faire ensemble pour se comprendre et aussi pour agir ensemble. Et ensuite, parce que pour l'instant, les précaires servent d'épouvantail vis-à-vis de ceux qui ne le sont pas. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, tous les gens qui travaillent dans ces secteurs-là, qui sont en CDI, qui sont fonctionnaires, ont l'impression qu'ils doivent se calfeutrer dans leurs murs pour ne pas se retrouver dehors avec les autres, alors que justement leur situation se dégrade du fait qu'ils ne créent pas de pont avec nous. Et je pense que là, il y a un énorme boulot à faire et qu'en plus, il n'est pas compliqué. Le problème, c'est de l'amorcer.
Donc, courage. Et peut-être le troisième bouquin, ce sera sur l'amorce de cette fin des intellos précaires.
Et on peut pas. Il faut que les intellos précaires se prennent en charge eux-mêmes. Le salut ne viendra pas d'ailleurs.
Donc, c'est le début de la fin, comme on dit.
Je pense qu'il ne faut pas être pessimiste, que des choses sont possibles et que certaines se feront, d'autres pas. Mais qu'il faut commencer déjà à comprendre qui on est et pourquoi on est là et qu'on a de bonnes raisons de se battre.
Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez aller donc, acheter les nouveaux intellos précaires. Donc, c'est chez Stock et c'est dans les 22 euros.
On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Le Oui, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et ce soir, vous étiez avec les oreilles loin du front dans un des locaux précaires de cette chère radio et vous étiez avec un réalisateur précaire de l'audiovisuel public, ce cher Raphaël. Et puis, nous avons Cédric qui était là et il y avait aussi Aude et puis il y avait aussi Alexandrine et puis il y avait Pierre et nous avions Anne Rambach en plateau.
Lemonade.